Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Et c'est l'heure de Par Jupiter avec vous, Charline Danaker.
Merci Lucas Scaltriti, mais je ne suis pas seule, vous savez.
C'est vrai, il y a toute une belle équipe.
Il y a toute une belle équipe.
Et un bel invité.
Dans mon binôme, Alex Vizorek, un magnifique invité, des chroniqueuses merveilleuses, oh là là. Vous voulez venir voir? Ah, il s'en fout, il est parti. Lui. Rien à foutre.
Non, non, mais j'arrive.
Ah, d'accord. Il était déjà parti pour nous rejoindre.
Il a fait son flash, c'est bon. J'ai plié les gaules.
À okay, tout de suite,
bon.
Charline.
Ah, merci Lucas, on vous attend. Hein. Pierre Palman est là. Hein.
J'arrive.
Ouais, bah,
je cours.
Allez, allez, c'est parti.
Ah oui, très spontané.
Alors, ce serait quoi le problème avec mon père ?
Mon redressement fiscal, c'est quand même lui. Il faut être un peu tordu pour venir contrôler son gendre.
Mais qu'est-ce que tu racontes ? À ce moment-là, on se connaissait même pas. C'est justement grâce à ce contrôle qu'on s'est rencontrés.
Oui, bah, chère la rencontre.
Hein. Oui, bah, à cette époque-là, il pouvait pas savoir.
Oui, enfin, tu m'ôteras pas de l'idée que ton père est tordu. Cadeau de mariage, une agrafeuse.
C'était de l'humour.
Oh, bah, j'ai tellement rigolé. Là, j'ai encore mal au ventre, dis donc.
Bon, bah, vous n'avez pas le même humour.
Mais voilà. J'adore ta mère. Mais tu m'excuseras, ton père est un tordu. Voilà.
Je t'interdis de dire que mon père est tordu. T'arrêtes avec mon père. Tu touches pas un cheveu de mon père. Je peux te tuer si je veux. Si tu reparles de mon père, moi, je prends la perruque et je l'agrafe sur la tête. Ta mère!
Poupée! Bah, dis donc, tu tiens bien le rôle, hein!
Ouais, mais t'engueuler, j'aime encore bien, bah, moi!
Et peut-être que Pierre Palmade, il a écrit Il s'aime en pensant à nous!
Oh, hein. C'est trop de chance qu'il vienne!
Ah, bah,
quand
ouais,
même.
Moi, ça me fait tellement plaisir! Moi, c'est quelqu'un qui m'a donné envie de faire le métier! J'ai même un autographe de Pierre Palmade quand j'étais petit!
Bah, moi, j'étais plus Christine Ockrent, moi!
Cool. Bah, t'es pas mal, il te laissait regarder Christine Ockrent!
Bah, ouais, pourquoi?
Non, rien! Non.
Bah, vas-y, va jusqu'au bout de ta pensée, là!
Alors, j'aime beaucoup ta mère, mais ton père.
Quoi, mon père?
On m'empêchera pas de penser que ton père est tordu!
Je t'interdis de dire que mon père est tordu! T'arrêtes avec mon père! Si tu reparles de mon père, moi, je prends ton autographe de Pierre Palmade, je la grave sur la tête à ta mère. Bonjour la France Inter, bienvenue dans la start-up publique, là où l'actualité est prélevée à la source de la blague. Et voici les trois informations qui vont se glisser dans la niche fiscale de la rigolade. La photo de la famille française est en plein chamboulement. C'est même confirmé par les chercheurs avec le PACS, les enfants qui arrivent tard, le mariage homo, Taubira démission et les tribus recomposées.
Tu sais, j'ai lu un truc l'autre jour dans Biba. Il disait que le mariage est la cause principale du divorce. Ça fait réfléchir, hein.
Le plagiat chez les humoristes, ça devient de moins en moins discret grâce au justicier copie-comique qui met en regard l'extrait du spectacle ou de la vanne originale et l'extrait, parfois à peine retravaillé.
T'as fini de répéter tout ce que je dis, toi ?
Tu vas répéter ce que je dis, toi ?
L'urine est un engrais vert. Alors, je voudrais dire qu'aujourd'hui, Alex Vizorek était rédacteur en chef de cette émission.
Ouais, c'est un
sujet pipi,
je suis dit,
donc.
Les gens ne le savent pas.
L'urine est un engrais vert et on le gaspille en même temps que des litres de flotte. Un domaine viticole suisse entretient ses vignes en pissant dessus. L'apport d'azote et de phosphore peut faire des miracles, semble-t-il.
Vivre dans l'urine, c'est affligeant. Mais où va le monde ?
Eh oui, c'est la question qu'on se pose. J'ai pas trouvé de transition
oui, dire,
parce qu'après l'urine, c'était un
je
peu scabreux. Mesdames et messieurs, voici Alex Vizorek.
Mais bonjour Charline Vanhoenacker. Eh bien, très belle équipe aujourd'hui. À 17h20, celle qui est beaucoup plus douce que certaines musiques qu'elle nous fait écouter, c'est Mélanie Bauer. Bonjour.
Bonjour, je me demande si mon chat a pas pissé sur mon manteau.
Ah, ben enlevez-le alors.
Ouais, hein, ça sent un peu
le pipi de chat ?
Un peu, ouais.
De quoi vous allez nous parler ? Ça n'a pas de sens.
On va parler du réel et de la musique du concret, du réel, du distordu, du vrai.
Comme d'habitude, quoi. À 17h30, celle qui a des invités à faire pâlir France Culture et qui parfois leur pose des questions à faire pâlir Brigitte Lahaye, c'est Christine Gonzalez, bonjour.
Bonjour, moi aussi, je vais un peu jongler entre le réel et la fiction. On va parler avec André Breton, parce qu'on a oublié la voix d'André Breton.
C'est évidemment une lacune.
Quelle belle voix, donc on va la retrouver. 17h40, celle qui est contre le réchauffement climatique, mais qui quand même doit admettre que cette semaine, c'était chouette d'avoir pu ouvrir la saison de la lecture en terrasse au Chardonnay. C'est Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour tout le monde.
De quoi on parle ?
Eh bien, comme tout le monde avait l'air d'avoir à nouveau un avis cette semaine sur le voile.
Oui.
Hein, c'était agréable, hein, si c'était agréable. Eh bien, je vais faire un roman qui se passe en Iran.
Très bien. Et à 17h55, comme il n'y a que des voix féminines en chronique aujourd'hui, il ne dénotera pas. Frédéric Fromet viendra nous interpréter sa chanson.
Et voici celui qui va ambiancer notre open space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes.
Je m'appelle Pierre Palmade. J'ai 50 ans.
Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
par Jupiter.
Bienvenue Pierre Palmade.
Bonjour.
On est très heureux de vous accueillir.
Mais et de enfin, ça me, faisait... ça me tardait de la faire cette émission.
Ah, voilà. Dis donc. On est content comme tout. Alors, vous êtes au théâtre en ce moment. Vous jouez dans Le Lien de François Bégodeau avec Catherine Yégel et Marie-Christine Danède. Mise en scène Panchika Vélez. C'est au théâtre Montparnasse du mardi au samedi à 20h30. Et puis il y a une séance supplémentaire le samedi à 17h30 jusqu'au 16 mars. Et sachez, chers auditeurs, qu'ensuite, il y aura une tournée dans toute la France de janvier à mars 2020. Voilà tout oui pour écouter l'interview d'Alex Vizorek et
oui,
Pierre Palmade.
Pour une fois, assez facile à résumer une pièce de théâtre, mais qui est très complexe parce qu'elle dit de l'âme humaine. En fait, c'est l'incompréhension entre une mère provinciale retraitée et son fils, un écrivain intello parisien. Ils se comprennent pas du tout ou pas bien, même s'il y a de l'amour qui passe.
Non, pas ce jour-là, non.
Ouais, pas ce jour-là, en l'occurrence. Non, mais c'est vrai, on se dit peut-être qu'il est mal luné aussi, on peut se dire ça. On comprend un peu que c'est l'histoire de François Bégodeau, peut-être.
Oui, il l'assume complètement, c'est autobiographique.
Mais c'est pas
l'auteur.
Du tout la vôtre.
Non.
Voilà.
Je reconnais l'étouffement de l'amour maternel. Mon agacement envers une mère qui vous aime inconditionnellement, je le reconnais. Mais non, c'est pas mon histoire.
Mais vous allez rarement jouer autre chose que du Pierre Palmade.
Oui.
Alors pourquoi vous avez choisi cette pièce-là? Qu'est-ce qui vous a plu? Et comment c'est de jouer un texte qui ne vous appartient pas quand on est auteur?
C'est Catherine Yégel qui m'a dit « Bon alors, quand c'est qu'on joue ensemble ?» Alors moi je dis « Bon, je veux jouer avec la grande Yégel. J'ai pas d'idée, j'ai rien à écrire. » Elle me dit « Ah, oh, j'ai une pièce sous le coude. » Et je la lis et je dis « Oh là là, que ça doit être génial de s'engueuler avec Catherine Yégel sur scène. »
Oui, c'est vous qui dites que c'est une engueulade d'une heure vingt, là. Pièce.
C'est un clash,
oui. Il y a
c'est,
ça.
Enfin, voilà. Alors, comme ils ont l'humour vache, ça peut être aussi assez drôle de temps en temps, malgré nous. Mais oui, c'est elle qui se fait engueuler, en fait.
Dans voilà. Un premier temps, c'est elle qu'on trouve assez désagréable parce qu'elle ne vous laisse pas en placer une. Et après, c'est quand même vous qui emportez la palme du mauvais fils, on va dire.
Oui, tout à fait. Oui, je trouve que ma mère me saoule parce qu'elle me parle de sa vie de quartier, je m'en fous. Et surtout, comme je suis dans la pièce, un auteur de romans célèbre, elle ne me parle jamais de ma carrière, ni de mes bouquins, qu'elle ne lit jamais. Et ça me rend dingue. Alors, je crois que c'est mon ego qui est piqué au vif et je reproche. En gros, je lui dis, c'est pas parce que t'es ma mère que je suis obligé de t'aimer. C'est ça l'engueulade. Et elle dit, bah si, t'es mon fils, donc on s'aime. Ah bah non. Voilà, c'est un peu plus argumenté, mais c'est en gros, c'est ça.
Est-ce que les gens, après, viennent vous parler de leur relation maternelle? Parce que, évidemment, on a...
Non, mes gardes du corps, mes gardes du corps empêchent les gens de m'approcher. Je ne peux plus me permettre d'être accessible.
Mais s'il y en a qui passent... Parce que c'est évidemment, ce qu'on a envie de faire en sortant, c'est de se dire, est-ce que nous, on est un bon fils? Est-ce que notre mère a été une bonne mère? C'est ces questions-là qui se posent à travers ça.
Je crois que c'est une engueulade très fantasmée. Je ne sais pas si ça peut aller jusque-là dans la vraie vie. Mais je pense qu'on a tous pensé ça de sa mère, de dire et la mère du fils aussi. C'est ça votre question?
Non, la question c'est le plaisir pour le spectateur, il est là. C'est peut-être ça qui vous a plu dans le spectacle, que les gens puissent se projeter, parce qu'une relation.
Ah, c'est que ça. Ouais. Même les rires, on pensait pas que les gens riraient autant. Les rires, c'est parce que ça touche à la vérité. Les gens se reconnaissent, ils disent mais c'est pas vrai, c'est exactement ce qu'on se reproche. Voilà, il n'y a pas besoin de...
C'est... On peut très bien s'entendre, par exemple, avec sa mère et se voir quand même dans
oui, parce que quand vous dites
certaines
que
réactions.
Alors ça, c'est nouveau pour moi, parce que moi, avec ma mère, on ne s'engueule jamais. Mais là, le fait qu'ils s'engueulent et qu'ils s'aiment quand même, pour moi, quand on s'engueule, on ne s'aime plus.
Mmh.
Et une engueulade égale une rupture, pour moi. Mmh. Mais là, c'est très étonnant.
Et j'ai l'impression que vous avez toujours voulu être aimé, c'est peut-être pour ça même que vous avez fait ce métier. Là, choisir un personnage, justement, qui est un petit peu détestable, ouais. ça vous a... plus de créer ça en tant que comédien, du coup.
Mais j'aime bien jouer du mal de moi, dire du mal de moi ou jouer du mal de
ouais,
moi,
c'est
d'ailleurs.
Ça.
Bon lapsus. parce que les gens se disent « Oh non, c'est pas possible qu'ils soient aussi cons. C'est pas possible qu'ils soient... Je suis sûr que dans la vie, il est mieux que ça.
» C'est par l'absurde que vous jouez. Alors, vous dites que c'est fantasmé et c'est vrai que probablement que ça n'arriverait pas à ce point-là. Mais par contre, chaque petit morceau peut arriver. Donc, ça commence par un monologue, elle parle toute seule pendant... bien 8 minutes où oui. Vous ne bougez pas. C'est très drôle, elle parle de vacuité absolue. Et puis vous avez cette question, vous lui dites, mais qu'est-ce que tu m'as dit que tu n'aurais dit à personne d'autre? Pourquoi on parle et tu ne me dis pas des choses que tu me dis à moi qui viens si peu souvent? Et j'ai trouvé que cette question était très, on se la pose jamais quand on parle à quelqu'un. Et en fait, quand on analyse le côté métacommunication du discours, et ici encore plus violent entre un fils et sa mère, eh ben, on a envie de se poser cette question-là.
C'est ça. C'est la différence entre le bavardage et la conversation. Voilà. Oui. Les gens qui bavardent avec vous, ils vous disent des trucs qu'ils pourraient dire à n'importe qui. Et moi, c'est, bah, enfin, le texte de Bégodeau dit attention, une vraie conversation, c'est quelqu'un qui dit quelque chose de précis à l'autre. Et pas le temps qu'il fait dans son quartier ou les balades en hélicoptère de je sais pas qui qu'elle a vu à la télé. Enfin, bon,
c'est Michel Drucker.
Quand vous dites le texte de Bégodeau, vous qui êtes un auteur, vous avez écrit des pièces de théâtre, vous avez écrit des one-man shows. Enfin, c'est même, je pense, ce que vous, peut-être vous aimez le plus, c'est d'écrire. Comment ça se passe quand vous devez jouer sans toucher à la ligne.
C'est pas la langue de Molière, hein, donc c'est pas, ça m'est pas complètement étranger. Le parler de Bégodeau, ses ironies, ça m'est familier quand même.
Mais vous avez pas envie de rajouter une vanne, vous avez pas envie de...
Non, mais par contre, j'ai la maladie du comique, de temps en temps, quand ça fait rire, j'essaie de le refaire le lendemain, ou même je demande à Catherine d'attendre un peu que les gens rient. Je lui dis, tu peux me laisser, je crois que j'ai un effet comique. Et pour Catherine Yégel, effet comique, c'est un mot grossier. Oui. Parce que c'est la comédie française. Et je lui dis, écoute, Catherine, je suis malade, je suis un comique. Oui. Donc j'ai la maladie du comique. Donc une fois par jour, je te demanderai un effet. Un silence.
Et elle en accepte un sur deux.
Attends, on va le faire, regardez. Riez. Silence. Voilà. On peut fonctionner comme ça jusqu'à 18h si ça peut vous faire plaisir.
Si j'ai mes, quand j'ai mes effets, j'aime bien qu'on rit derrière. Ouais. Voilà.
C'est un métier, hein.
Mais bien sûr. Pierre Palmade est en notre compagnie. La pièce s'appelle Le Lien de François Bégodeau avec Catherine Yégel, vous l'avez compris, et Marie-Christine Danède au théâtre Montparnasse jusqu'au 16 mars, donc ne tardez pas trop. Et puis en tournée de janvier à mars.
Weezer, Island in the Sun. Mais c'est nous ça, Island in the Sun.
Ça veut dire ça?
Island in the Sun. C'est une île dans le soleil.
Island in the Sun. Ah, non,
à 17h20 sur France Inter, par Jupiter. Oui, on fait les kékés parce que c'est Pierre Palmade. Alors ben bon, oui. On aime beaucoup tout ça. Puis il y a Alex pour entourer Pierre Palmade.
Eh ben, dites déjà pourquoi il est venu, parce qu'on aime pas la promo.
C'est vrai.
Ça, c'est vraiment pas sympa.
Je répète, le lien de François Bégodeau, c'est au théâtre Montparnasse avec notamment Catherine Yégel.
Allez-y avec votre maman autour de la table, Juliette Arnaud, Mélanie Bauer et Christine Gonzalez.
Et le journal.
Le journal, c'est il est prêt.
Oui. Moi, monsieur Macron, j'ai un petit cadeau pour vous.
Le journal de presque 17h17.
Je ne suis pas le Père Noël et vous n'êtes pas des enfants.
Et on commence par les titres.
Les Républicains ont conclu la vente de leur siège parisien pour 46 millions d'euros, mais ils continueront à occuper les locaux en tant que locataires.
Eh oui, vendre pour louer, on sent que chez les Républicains, on investit sur l'avenir.
La gendarmerie ne veut pas de Francis Lalanne comme réserviste après ses attaques contre le gouvernement.
Mais quel gâchis!
L'information est tellement savoureuse à lire.
Quel gâchis! S'il y en a un qui pouvait disperser les gilets jaunes, c'est bien lui et sa guitare.
Eh oui, c'est vrai, les brèves.
Eh oui, je vous laisserai pas partir en vacances sans les brèves, Charlie.
Pierre Palmade va découvrir les brèves, ça va être quelque chose.
J'en ai deux bonnes en plus.
Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du compliment.
Oui, l'équivalent du ramadan pour Jean-Luc Mélenchon.
C'est vrai.
Quant à vous, Charline, je voulais vous dire que je vous trouve pleine de vitamines, notamment B12, des oligo-éléments et d'acides aminés.
Qu'est-ce que vous racontez, Alex?
Je t'allais vous faire des compliments alimentaires. C'est le jeu de mots. C'est le dernier jeu de mots en vacances. Je me suis dit, je le classe.
Allez, passons à la réunion du grand débat à Bordeaux.
À Bordeaux, Emmanuel Macron s'est invité. Dans cette réunion, elle était présente une dame qui est venue lui offrir un gilet jaune.
Moi, monsieur Macron, j'ai un petit cadeau pour vous, parce que depuis le 17 novembre, je suis gilet jaune. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas refuser à une dame.
Et elle a pas, il l'a pas mis, il a dû refuser assez élégamment.
Je suis le président de toutes les Françaises et tous les Français.
Oui.
Mais j'ai le droit de ne pas mettre un gilet jaune.
Oui, bah j'avoue que ça aurait eu un peu de panache s'il l'avait enfilé et crié « Macron, démission !»
Passons à Gérald Darmanin.
Il était sur Europe 1 et quand on lui a parlé de la mairie de Tourcoing et de ses ambitions pour 2020, il a dit ceci.
Dans un mois, dans un an, combien souffrirons-nous, Seigneur, que tant de maires me séparent de vous? Je vois pas pourquoi je serais plus rapide que Bérénice.
Il a dit du Racine.
Ouais, en direct sur Europe 1 à 8h27.
Un coup à leur faire perdre la moitié de leurs auditeurs.
Ah bah oui.
Ils n'étaient plus que 4, donc.
Après. Effectivement. Et on les salue parce que maintenant ils sont arrivés chez nous, du coup. Archéologie. En exhumant des squelettes vieux de 6000 ans, des scientifiques espagnols ont mis en évidence que les hommes préhistoriques domestiquaient déjà les chiens et se faisaient enterrer avec.
Oui, on s'en doutait un peu que les plus vieux humains aimaient bien les animaux. On connaît Brigitte Bardot.
Sport, à présent, rugby. Déçu d'avoir perdu Jackie et Michel comme sponsor, sous la pression du Biarritz Olympique, le manager de Carcassonne dénonce les pratiques du club Biarrou.
Oui, et puis ça ne s'invente pas. À votre avis, comment s'appelle le manager? Est-ce que vous connaissez son nom, celui qui était triste de perdre Jackie Michel?
Bah non, je sais pas.
Christian Labitte.
Ah non.
Je vous jure, je ne dois plus rien inventer.
C'est fort de la vanne, comme vous dites.
Oui, les vannes.
Sport encore, au Japon, la barbe est jugée indécente et interdite aux lutteurs de sumo.
Ils sont quand même bizarres, les Japonais. La barbe, c'est indécent. Par contre, que deux mecs de 300 kilos en string se battent devant des millions de personnes, ça pose de problèmes à personne.
Allez, retenez votre souffle.
Attention,
les brèves.
De brèves, le numéro 1 mondial du bridge qui porte les couleurs de Monaco, contrôlé positif à la testostérone. Si on m'avait dit qu'il y avait du dopage dans le bridge, à part la vitamine C pour rester éveillé, j'entends bien.
La dernière.
Et la dernière, alors là, j'y croyais même pas pour moi-même. Pays de Galles, un jeune homme né sans bras, poignard de son père, il tenait les ciseaux par ses orteils.
Non.
Alors oui, c'est un acte violent, mais c'est quand même une belle leçon de vie aussi. Hein. Donc on peut y arriver.
Beaucoup d'agilité, en tout cas.
Oui, le père va bien, mais voilà.
Ouais, on est content. Vous faites un suivi des brèves. Parfois, il y a des nouvelles des gens.
J'aurais trouvé ça terrible.
C'est important aussi. Hein.
Pas,
17h25 sur France Inter et c'est Pierre Palmade qui nous accompagne. On va aborder ce premier sujet qui a un peu trait à la pièce que vous jouez en ce moment au théâtre Montparnasse. La photo de famille française a changé. Entre les tribus recomposées, les foyers monoparentaux, les couples homo et même aujourd'hui en France, l'INSEE compte 4 PACS pour 5 mariages. Les statistiques viennent confirmer que la famille se sent plus libre et qu'elle déborde enfin du cadre de la photo.
Bonjour Pierre. Je te présente Victor, un ami de Paul.
Ah oui, bonjour.
C'est l'ex-mari de Sophie. Et Gaspard, c'est le fils qu'il a eu avec Sylvie, sa deuxième femme. Et Sophie a eu Hélène Nico avec Bernard, son deuxième mari. Et Sylvain, c'est leur fils.
À qui?
À le fils de Pierre, le premier mari de Sophie et de Sophie.
Ah oui.
Vite, Hélène, va ouvrir.
Bonjour Alain, je vous présente Victor, l'ami de Paul.
Salut Alain.
Tu vois, Alain, c'est le mari actuel de Marianne, la première femme de Bernard, le mari de Sophie. Et Marie, c'est leur fille. qui se trouve donc être la demi-sœur des enfants de Marianne et Bernard. Tu comprends?
Oui, oui, tout à fait.
Alors Alain s'est marié avec Marianne, la mère de Claudine et Richard, qu'elle a eu avec Bernard. C'est une chouette famille, non?
Très chouette, mais pourquoi ils ont tous divorcé comme ça?
C'est votre camarade Michel Leroc, entre autres, dans La Crise, le film de Colin Serrault, bien sûr. Un article de Libération qui s'intitule « La famille s'éclate ». Et en effet, l'Institut National de Statistique montre que maintenant, la famille déborde complètement du cadre de la photo. Est-ce que vous, vous avez observé la société se détendre, enfin, à ce sujet depuis 30 ans? D'abord, le divorce qui passait dans les mœurs, les familles recomposées, le Pax, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, la famille qui n'est pas un papa plus une maman, on sort de ça, on est plus détendu.
Vous avez non, mais vu les manifs là sur les quand il y a eu le mariage gay, ben, il fait un peu peur. J'ai dit, oh, là, c'est qu'est-ce qu'on est sclérosé dans le passé. Ouais. Et là, ça fait plaisir que ce soit un sujet qui dise, bah ça y est, c'est établi quand même.
Voilà, exactement. Il y a 4 Pax pour 5 mariages et quasiment une majorité de couples hétéros aussi qui utilisent beaucoup plus le Pax.
Ah oui, oui, on m'a dit ça.
Effectivement. Qu'est-ce qui restera encore aujourd'hui à conquérir pour être complètement détendu avec le sujet de la famille, ouais.
Vous aviez écrit une pièce sur ce sujet d'un couple qui avait un enfant qui voulait enfin le...
Le fils du comique où je faisais se battre en duel deux femmes pour savoir laquelle méritait mes gènes.
Oui.
Mais voilà, par exemple.
Il faudrait pouvoir exclure quelqu'un de sa famille quand il se comporte mal. Il faudra pas seulement l'intégrer, mais savoir pouvoir l'exclure.
C'est vrai que ces sujets-là concernent à chaque fois l'inclusion et qu'on ne parle jamais d'exclusion.
Voilà, tonton, t'es trop chiant.
Le tonton bourré de la fin, bien sûr.
Vous dites, dans la pièce, le personnage dit, on donne à sa famille la part la plus minable de nous-mêmes. Est-ce qu'on se permet des choses dans sa famille qu'on ne se permettrait pas avec ses amis aussi? C'est ça parfois qui rend des...
Je me dis que comme on se dit qu'on ne pourra jamais se quitter. On ne peut pas quitter sa mère. On peut aller très loin puisqu'il n'y a pas la menace de la séparation au bout.
Ouais,
je pense.
Lot, le lot de l'amour inconditionnel.
Oui.
Voilà, on
sait
qu'on
peut la regarder avec ses orteils.
Oui,
c'est pas faux. Je vois que vous faites des liens.
Il y a des carences comme ça.
Non, mais il y a aussi une phrase qui m'a marqué, c'est que c'est une zone de non-droit social. J'ai trouvé ça assez bien. C'est-à-dire que dans sa famille, effectivement, on se permet vraiment des choses. Et je ne sais pas si vous avez vécu ça.
Peut-être
un noyau familial.
On est assez correct. Si on se fâche, ça ne dure pas longtemps. Mais non, mais je pense qu'on peut étouffer, se dire des choses peut-être qu'on ne dit pas aux autres de peur. Voilà,
c'est un sujet qui vous inspire de temps en temps. Vous avez aussi écrit une pièce avec Pierre Richard. Pour vous, Pierre et fils, exactement.
Voilà, donc, le père qui revenait, qui était complètement inconséquent, Pierre Richard qui revenait pour taper l'incruste. Et puis voilà, puis moi j'annonçais que j'étais bisexuel, que j'étais avec... ma femme, bien sûr, mais aussi avec mon employé. Donc tout va bien.
Donc c'est un terreau qui
2018.
Vous inspire toujours.
Et quand vous avez quitté Bordeaux pour venir vous installer à Paris, est-ce qu'une famille, vous avez dû la recréer
C'était Muriel.
La choisir.
Toute ma famille, c'est devenu Muriel Robin. J'ai plugué mon nombril sur le sien. Et c'est devenu ma maman, mon papa, mon frère, ma sœur, mon amoureuse. C'est elle qui m'a fait découvrir Paris. Jean-Marie Bigard a été mon frère. Muriel, on s'appelle très vite frère et sœur quand on se s'aime.
Et puis l'esprit de troupe aussi parfois que vous pouvez
exactement,
avoir.
J'ai eu ma névrose paternelle avec une troupe. Avec une troupe, c'était mes petits. J'ai eu la troupe à Palmade, c'était mes petits. C'est drôle d'ailleurs que dès qu'on aime énormément quelqu'un, à part quand c'est son amoureuse ou son amoureux, on donne des noms de famille, c'est-à-dire t'es comme ma mère, t'es comme ma sœur, t'es comme mon frère, t'es un peu mon père.
C'est juste.
Vous êtes rapide là-dedans, vous êtes plutôt pudique.
Sur le je t'aime?
Non, sur le vous êtes mon frère, ma sœur, mon fils.
J'ai jamais eu de frère, donc quand j'ai un très très bon ami, un copain homme avec qui vraiment il y a une solide amitié, je l'appelle j'en fais un frère très vite.
Si on laissait la parole à notre sœur aussi autour de cette table.
Sœur musique.
Sœur musique.
Oui, j'ai mis mes lunettes.
Mélanie Bauer.
Alors évidemment, Pierre Palmade, vous avez chanté. On vous aurait imaginé explorer vos influences Claude François, chorégraphie et veste à paillettes. Et pourtant, pas du tout. Pour cet album très personnel de Petites Tranches de Vie, c'est plutôt vers Pierre Perret que vous êtes allé pêcher l'inspiration. En septembre 2013, donc, vous sortez votre premier album, interdit aux moins de 30 ans, un court disque de 11 chansons avec ce tube « L'amour cochon ».
Ce soir, je veux de l'amour cochon.
qu'on se traite de tous les noms, qu'on fasse ça dans toute la maison, qu'on invente des positions. On utilisera des ceintures et puis aussi de la confiture. On va oublier les murmures.
Je veux voilà, voilà, voilà. On pourrait imaginer faire un remix de cette chanson, L'amour cochon, avec des sons du réel. C'est d'ailleurs ce que a fait littéralement l'artiste de musique électronique anglais Matthew Herbert.
Sur ma chanson ?
Non. Qui lui a directement enregistré un cochon. Pour réaliser son disque One Pig, Matthew Herbert, génie absolu de la musique, qui sortait quelques mois avant vous, hein, une longue histoire de porc, hein, de la naissance à l'assiette One Pig. C'est la vraie vie d'un cochon. Ici,
ça, par exemple.
Ici, c'est donc le son, comme je vous le disais, d'un vrai cochon décédé hein, depuis ce disque, non sans avoir touché à la beauté de la postérité. Il y a un lien historique entre la musique concrète des sons de la vie et la musique électronique. Je vous raconterai ça un autre jour, hein, quand on aura une heure. Le concret, c'est à la fois magique et extrêmement ennuyeux, on est tous d'accord. Prenez le Brexit, le nouveau projet de Matthew Herbert après le cochon. En voilà un sujet casse-gueule pour ce disque, mais une fois qu'on a fait la vie du cochon, hein, on peut bien s'attaquer à la politique de son pays. The State Between Us, c'est son nouveau challenge avec le Brexit Big Band, 20 musiciens sur scène, un album qui explore les sons de la Grande-Bretagne durant un voyage à pied. En voici le résumé. Alors,
c'est un seul morceau.
Il y a les sons d'un nageur traversant la Manche, d'une Fiat Fiesta en cours de démontage, d'une trompette que l'on plonge dans la friture. Mm-hmm. Ça sort le 29 mars et c'est la poésie du concret. Bref, pour terminer cette incursion dans la distorsion du réel, je vous propose aussi d'aller faire un tour à Paris le 15 mars à l'hôtel de Lauzin à 18h pour découvrir, dans le cadre du festival Paris Musique, le club des Hachichins, lieu de rencontre d'artistes qui fumaient pas.
Qui jouent du fer à repasser. C'est
non,
très impressionnant.
Il ne fumait pas de hashish, mais il le mangeait. Alors ce club, c'était Charles Baudelaire, Gérard de Nerval, Gustave Flaubert, Alexandre Dumas, Noré de Balzac ou encore quelques peintres. Et puis aussi Théophile Gautier, un des tout premiers clients du club, qui décrit les effets de l'absorption de hashish en trois phases. L'hyperesthésie des sensations, en particulier auditive, la dilatation du temps et enfin l'apparition de figures grotesques. On y écoutera quelqu'un dont j'admire le travail depuis longtemps, Ignatius, poète du réel, qui retrouve ses distorsions et peut-être ses figures grotesques en restant implacablement sobre.
Est-ce que je vais savoir, est-ce que je vais pouvoir un travail ? Il faut s'appliquer, ne pas rêver, ne pas dormir. Un travail ? Est-ce que je vais savoir ? Est-ce que je vais pouvoir ? Un travail ? Est-ce que je vais savoir ? Est-ce que je vais pouvoir ? Est-ce que je vais supporter les ordres et les pauses café ? L'heure qui compte sur moi, moisir chez moi ou me tendre là-bas, je ne sais pas. Mais un travail. Est-ce que je vais savoir, est-ce que je vais pouvoir un travail? Est-ce que je vais comprendre la tâche, la porter comme il m'a demandé? Ne pas suivre une pensée et m'y perdre? Ne pas fixer le nœud dans le bois? Ne pas me noyer dans ma crainte? Un travail. Souffrir de trop, souffrir des regards, quoi que j'en pense, plier sous le poids du devoir et des yeux noirs, mais sortir enfin du passé de ce que j'étais, me tenir droit, me tenir propre, écouter, comprendre, avancer, faire, mais un travail. Écouter, comprendre, avancer, faire, écouter. Il faut s'appliquer, ne pas rêver, avancer, ne pas dormir. Faire, écouter, comprendre. Un travail. Faire, écouter, comprendre.
C'est flippant le travail, hein.
Ça s'appelle Un Travail.
Époque, le progrès de Ignatius, qu'on retrouvera donc en concert le 15 mars à l'hôtel de Lausanne à 18h.
Vous êtes sur Radio Hachiche, il est 17h36. On a peut-être des tweets de réaction de gens qui sont un petit peu hallucinés.
Il y a des gens vigilants. Crustilo nous dit, si l'homme qui a poignardé était sans bras, est-ce qu'on peut pas dire qu'il a piégnardé son père? Et ça, c'est une vraie question.
C'est vrai. Mais non, mais poignarder, c'est pas avec le poignet.
Ah bah écoutez, c'est des questions. Vous
avez
oui,
c'est avec le poignard, c'est vrai.
Avec le poignard, voilà. Ben voilà. Entre les dents, tu as la réponse à ta question.
Voilà. En tout cas, merci Mélanie Bauer pour cette découverte.
Je reviens très très bientôt.
Et comme dirait Pierre Palmade, c'est très joli quand c'est bien expliqué. C'est, on comprend bien. Merci beaucoup.
On comprend mieux.
Oui. C'est ça. Voilà. Pierre Palmade qui est au théâtre Montparnasse dans Le Lien, la pièce de François Bégodeau avec Catherine Yégel, Marie-Christine Danette dans une mise en scène de Pachika Vélez. Et ensuite, vous serez en tournée de janvier à mars 2020 pour aller dans toute la France présenter
exactement
cette pièce. Je suis bien renseignée, dites donc.
C'est peut-être la Belgique,
ah, on
et peut-être
la Suisse.
Ah, bah, ouais. Et allons-y alors, c'est une bonne idée ça. Mmh. Oh là, et
la transition.
Avec Pierre Palmade, je sens qu'il y a un truc. Il lance des transitions, bim, on les rattrape.
Suisse, Christine
Gonzalez. Les relance, Christine Gonzalez.
Enfin, Christine Gonzalez, surtout André Breton.
Mais bien sûr.
Ouais.
Oui.
S'il vous plaît, j'ai besoin de vous. C'est pour mon neveu qui est en train d'étudier le mouvement surréaliste au lycée. Mouvement qui n'est pas tout simple à expliquer.
C'est de loin le plus fascinant.
Oui, donc j'ai promis de l'aider. Je lui ai dit que j'allais entrer en contact avec vous, puisque vous étiez le chef de file du mouvement, une sorte de génie. Enfin bon, génie, peut-être le mot est un peu fort, mais...
Le mot n'est pas trop fort.
Donc, le surréalisme, je lui dis quoi?
J'estime qu'à cette époque, la conscience littéraire était loin d'être tombée aussi bas qu'aujourd'hui.
Vous dites ça pour Marc Lévy et Guillaume Musso?
Horreur de tous les métiers.
En attendant, ils vendent plus de livres que vous.
Grande énigme.
Bon, écoutez, c'est pas un scoop. Hein. Vous savez bien qu'un livre de décoration de Valérie Damidot fera de meilleures ventes qu'une réédition de Rimbaud.
Oui, certes. Il n'en reste pas moins que Valérie m'a beaucoup appris.
C'est vrai. Et puis expliquer comment on maroufle...
Ce n'est pas très facile
non,
à expliquer.
Non, c'est pas facile, rien que pour ça, respect. Donc, le surréalisme, son objectif, libérer l'imagination, c'est bien ça?
Oui, c'est à elle de retrouver, de remettre en place la courroie de transmission.
Parce que c'est sûrement le mal de notre siècle, non? Le manque d'imagination.
La main à plume vaut la main à charrue, quel siècle à main? Je n'aurai jamais ma main.
J'ai l'impression qu'on s'éloigne du sujet. On peut dire que le surréalisme a marqué une époque sans concession, peut-être que les surréalistes rejetaient la raison et l'ordre bourgeois.
On peut vraiment dire
qu'ils étaient au-dessus de cela. Ce qui fait qu'ils mériteraient
un coup de chapeau.
Mais nous n'en portons plus. C'est vraiment bizarre, je me sens comme l'objet d'un appel diffus. André Breton, est-ce que vous êtes dans ma tête là?
Peut-être.
Sortez tout de suite.
Oui, certes.
Bon, sérieux, c'est déjà que je me sens pas tout à fait normal.
Seule la psychanalyse pourrait peut-être en rendre compte.
Alors, est-ce qu'on pourrait revenir à mon neveu? Je dois lui parler de Paris aussi, Paris épicentre de la révolution surréaliste. Vous y teniez à cette ville?
Comme à la prunelle de mes yeux.
Bon, alors, je sais pas si ça vous plairait, le Paris 2019 avec pic de pollution, Anne Hidalgo...
Anne qui se mélange au drap pâle et délaisse des cheveux endormis sur ses yeux mal ouverts.
Donc vous aimez Anne Hidalgo?
Bien sûr.
Vous l'aimez comment?
De façon que je qualifierais de plus subversive.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle vous inspire?
Le mystère ou le trouble. Érotique d'ailleurs.
Ah oui, carrément.
J'ai contracté au mental un certain goût du scabreux.
Bon, André Breton, on conseille quoi comme lecture? Votre manifeste du surréalisme, Nadja, ou vos poèmes?
Ma poésie est obscure comme un lys.
Donc, vous conseillez de ne rien lire?
Exactement.
Écoutez, on va rester là-dessus. Je pensais sincèrement que vous me seriez plus utile.
Ma foi, vous savez qu'il est assez difficile de remonter le cours de sa propre sensibilité.
Cela dit, moi, ça m'a fait très plaisir d'entendre votre voix.
Oui, mais il faut bien reconnaître que c'est là pur et simple alibi.
Merci pour tout, au revoir.
Adieu, cocotte.
Pas des dents, André. Oh.
Est-ce que c'est bien fait? Bravo.
Bravo, Christine Gonzalez. Merci beaucoup. On a l'impression d'y être, n'est-ce pas, Pierre Palmade?
J'adore.
André Breton était parmi nous. C'est avec les...
Extrait d'un entretien d'André Breton avec André Parrino. C'est en 1952.
Ah oui.
Ouh, ouais. Très bien.
Le fait qu'ils connaissent Valérie Damidot, ça nous,
ouais.
Ça nous saisit.
Un visionnaire.
Elle-même, n'en revient pas. Merci, Christine Gonzalez, notre collègue de la RTS. Et d'ailleurs, tiens, ce soir, il y a une émission
Oui, question Q, magazine des sexualités sur la première, entre 21h et 22h, on va y parler d'amour au travail. Peut-être ça vous intéressera.
Non, je ne vois vraiment pas. Alors, 17h41 sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter. Pierre Palmade est avec nous. Et on va aborder ce sujet sur le justicier un peu des comiques qui s'appelle Copy Comique. C'est une chaîne YouTube qui révèle le plagiat de textes ou de vannes par certains humoristes en mettant la vidéo du spectacle original en face du spectacle qui a fait, on va dire, quelques emprunts. Thomas Sisley ou Gad Elmaleh ont notamment été épinglés par Copy Comique, mais pas que, il y a deux grands humoristes. Attention, ouais.
Si on apprend notre langue, quelquefois à grand prix, en Argentine ou en Pologne...
Si l'on apprend notre langue, quelquefois à grand prix, en Argentine ou en Pologne...
S'il existe des listes d'attente...
Pour s'inscrire à l'Alliance française de Shanghai, de Tokyo, de Mexico,
ou bien au lycée français de Rabat ou de Rome, si Paris est la première destination touristique mondiale,
c'est que la France est autre chose et bien plus qu'une puissance industrielle, agricole ou militaire.
Bah, c'est pas foulé, la mère Le Pen. A tout copié Jean-François Fillon. Ah oui, si. C'est un plagiat dans la dernière campagne. En plus, c'était fin avril, début mai. Donc, on était vraiment à une encablure de l'élection présidentielle.
Puis c'est rassurant de savoir que François Fillon...
Qui avait repris qui?
C'est Marine Le Pen qui avait plagié un discours de François Fillon.
D'accord. Surtout qu'ils avaient la même plume. Parce que je doute que ce soit l'un des deux qui
est... C'est possible. Alors, on se rappelle plus très bien de... Mais c'est peut-être... Et quelqu'un en régie me dit masser ce caron pour rigoler, mais c'est peut-être... On n'est pas loin. Enfin, je sais pas. Bon. Est-ce qu'on peut faire une recherche, tiens? Parce qu'on s'est pas posé cette question, c'est juste, mais c'est soit la plume, soit, c'est l'une des plumes de Fillon. Alors. deux grands humoristes, hein, Fillon, Le Pen, quand même parmi les plus grands. Donc,
c'est la même logique.
Ils sont assez fandards, les deux.
C'est sûr. Cette idée de copie comique, le plagiat semble choquer davantage aux États-Unis. Où là, les spectateurs sont, c'est impardonnable. Et en France, on a l'impression que on est un peu déçus, mais ça passe.
Comment ont réagi les intéressés?
Alors, Gad, en l'occurrence, a attaqué, a demandé qu'on retire les vidéos parce que son droit d'auteur était en jeu, vu qu'il y avait des morceaux de son spectacle.
Mais ça n'a pas marché.
Et donc, Twitter les a remises, les vidéos.
Ouais. Alors, il a fait une vidéo dans laquelle il ne s'excuse pas, mais il joue un peu son personnage de chouchou en disant que tout le monde doit bien aller se faire cajoler.
Ouais. Et Thomas a dit, si les Américains ont besoin de l'argent que ça m'a rapporté, qui m'appelle?
D'accord.
Vous avez tellement écrit Pierre Palmade et aussi pour les autres, notamment pour Bedos, Muriel Robin, etc. Vous êtes un peu il y a un côté
est-ce
troupe d'écriture.
Est-ce que j'ai piqué?
Non, voilà, c'est pas question d'être là parce qu'on a absolument aucun soupçon sur vous.
Et à qui?
Mais vous avez tellement écrit qu'est-ce qu'il vous arrive parfois de réentendre des choses où vous dites tiens ça me rappelle un truc que j'aurais écrit.
Bah, attendez, moi on est inspiré d'eux, on rend hommage à et puis à un moment on plagie. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de phrases, même de Sylvie Joly, qu'on peut retrouver dans certains de mes sketchs. T'as pas vu ta tronche à toi par hasard. Enfin, des choses, on peut...
Et vous êtes conscient quand vous l'écrivez
ou la première fois que j'ai vu Florence Foresti, je trouvais qu'elle ressemblait tellement à Muriel Robin. Je me dis, mon Dieu. Mais elle l'a dit tellement vite qu'elle l'a mis en hommage. Alex Lutz, avec qui on est très proche, de temps en temps, j'ai retrouvé... Je vois une phrase, il me dit, mais Pierre, c'est normal, elle m'a inspiré. Donc... Oui, il y a forcément des filiations, des hommages, des inspirations d'eux. Après, quand c'est trop long, l'hommage, ça devient effectivement un plagiat.
Mais vous les avez vus ces vidéos
Ben oui, alors il faudrait savoir si c'est les auteurs de nos humoristes, parce que des fois, moi j'ai du mal à dire du mal des copains.
Non, c'est juste sur le concept.
Donc je dis, on ne sait pas qui a fait en toute conscience ça.
Oui. Oui, si c'est l'humoriste ou si c'est son co-auteur.
Un de son co-auteur, voilà, qui a fait un mauvais coup. Troublant, qu'est-ce que vous voulez vous dire?
Internet a changé la donne, mais on parlait, les humoristes de l'époque avaient plus facile à aller taper un petit jeune dans un café-théâtre ou...
Alors, on me racontait, à l'époque, que Guy Bedos me racontait que Fernand Reynaud allait piquer dans les cabarets des blagues Et Guy Bedos me dit, quand on savait qu'il y avait Fernand Reynaud dans la salle, on se faisait que nos plus mauvais sketchs. Parce qu'il venait dans les tickets. C'est connu, il y a des émissions comiques à une époque, je peux pas balancer parce qu'il est sans genre, mais il y avait des gens qui envoyaient des sbires dans les cafés théâtres pour piquer aux jeunes humoristes des bonnes vannes.
Des humoristes, des émissions qui se passeraient dans une école?
Non. Oh là là, pas de polémique. Mais oui, il y a des...
Et l'humour, l'humour américain, parce que c'est souvent celui-là qui est pillé aujourd'hui, est-ce que il vous amuse, il vous inspire, les stand-uppers d'aujourd'hui, vous les regardez?
Le bon, oui. Quand le mec a vraiment, pour moi, un bon stand-up, c'est quelqu'un qui a une philosophie, un coup d'œil sur la vie très profond et une vraie colère. Si c'est juste des blagues qu'on peut se refiler les uns les autres sur la différence entre les hommes et les femmes et voilà.
Mais vous regardez les Louis C.K., les Ricky Gervais, les choses comme
oui,
ça.
Oui, je vois un peu. Mais moi, j'aime tellement cet humour de comédie où la personne joue avec quelqu'un d'imaginaire, où c'est une truc de situation que ça ne m'impressionne pas quelqu'un qui arpente la scène en parlant d'une manière décontractée. Je trouve pas que ça mérite de mon. Enfin, voilà, je trouve pas que. Non, mais c'est pas magique. Ça me fait pas rêver quelqu'un qui me parle comme il parlerait à table ou au comptoir d'un café. Moi, j'ai besoin que la personne soit un peu extraterrestre et parle à des personnages imaginaires, joue à la comédie.
Ah ben comme moi.
Voilà. C'est quelqu'un qui boit de l'eau, qui boit une bouteille d'eau et qui dit ah vous n'avez pas remarqué. Ça me fait un petit peu moins rêver, même s'il y en a qui sont très...
Pour donner un exemple...
C'est ma chapelle. Hein,
Blanche Gardin, vous avez dit beaucoup de bien de son travail, par exemple.
Ah oui, alors voilà, ça c'est une exception. Effectivement.
Bah, votre fameux sketch du Scrabble, c'est exactement ça. C'est des partenaires imaginaires.
Oui, moi j'aime bien ça, j'adore. Bah, évidemment, Blanche est une exception, mais Desproges aussi est une exception.
Stand de peur en soi, oui.
Voilà, il y a des gens magiques. Guy Bedos l'était aussi...
Oui, il y a toute une nouvelle génération qui arrive et il faut les défendre aussi. Ce soir, je vais voir Farid qui remplit Bercy et son spectacle est assez brillant. Et Haroun, enfin, il y a plein de gens qui ont des choses à dire aussi.
Non, mais c'est grosso modo ma chapelle. Moi, c'est la comédie avec les personnages imaginaires.
Alors, on a la réponse pour le discours Le Pen-Fillon. Voilà. Donc, l'auteur est Paul-Marie Couteau qui a écrit un livre que les deux ont repris. Ils ont repris le même passage.
Mais en le prévenant, ce monsieur.
Couteau, il est très proche
c'était un soutien officiel de François Fillon. Merci beaucoup à toute l'équipe en régie que j'ai dans l'oreille. Fabrice Rivaud, merci, qui est à fond sur le coup. Il est 17h48 sur France Inter. Dans ce studio, Pierre Palmade, il y a aussi, bien sûr, Juliette Arnoux.
Juliette Arnoux qui, cette semaine, a pété sa boussole. Ou plutôt, Décathlon m'a pété ma boussole. Parce que jusqu'à Décathlon, disons que j'étais marxiste tendance Groucho, et je rangeais les idées et les gens, grâce à ça, dans mes petits tiroirs et en avant-trinquant. Et puis voilà, la mouche dans le lait. J'apprends donc, à cause de l'affaire Décathlon, j'apprends que Dupont-Aignan est féministe. Énorme calotte dans ma gueule. C'est un peu comme si on m'annonçait que Gilles de Rais dirigeait les services de la DAS. Là, vraiment, Gilles de Rais était pédophile.
Ah oui, on en choisit d'autres, nous.
Non, bon, d'accord, tant pis. Donc ça m'a fait une grosse calotte, je me suis dit, elle est fatiguée, maman, elle est fatiguée, ou plutôt, elle est désorientée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait quand je suis désorientée? Je fais comme Ophélie Winter, je prie. ma petite prière personnelle... À moi les livres, la terre m'abandonne et la déesse, oui c'est une femme, la déesse des livres, m'a répondu et elle m'a envoyé « Désoriental » de Negar Djawadi. Dans les deux mots, « désorienté » et « désoriental », »,« désoriental » étant un néologisme, il y a une racine commune, « orient », qui vient du latin « oriens ». Logique, l'autrice et la narratrice viennent d'Iran. Ah, l'Iran. En France, on aime beaucoup, beaucoup ressortir les photos sépia des femmes iraniennes des années 60-70, vous savez, sans voile, en pantalon et aux cheveux courts. Alors, ces photos existent, bien sûr, ce ne sont pas des mensonges. Pour autant, raconte-t-elle toute la vérité? Qui se souvient du docteur Mossadegh? Qui se souvient de comment la CIA et les renseignements britanniques le firent tomber, le docteur Mossadegh, pour installer le Shah à sa place en récupérant au passage le pétrole? Qui se souvient de la SAVAK, qui en termes de services de renseignement vaut largement sur l'échelle de l'horreur la Stasi? Eh bien, Désoriental va se charger de te rafraîchir la mémoire. Le roman commence avec une femme, Kimia, qui attend une insémination dans un hôpital parisien. Elle espère que ça va prendre, et au moment d'imaginer une descendance, elle se remémore son ascendance. C'est un exercice narratif passionnant, une sorte de système de poupées russes, où il y a d'abord la grande poupée, l'histoire de l'Iran, et puis l'histoire d'une famille au centre de la résistance de gauche face au Shah et face ensuite à Khomeini, ça c'est la moyenne poupée, et puis une plus petite poupée, celle d'une femme, Kimia, qui après l'exil nécessaire se sent désorientale. Et cette désorientale infiniment perse procède avec le lecteur comme Scheherazade avec le sultan. Quand elle semble parvenue au point du récit qui explique tout, elle fait un détour. Et toi, tu te laisses faire parce que les gens qui racontent bien les histoires, eh ben, c'est pas si commun. Kimia, c'est la dernière fille d'un couple magique d'intellectuels, Sarah et Darius, et elle devait naître garçon. Tout le monde était sûr de ça, surtout la grand-mère d'origine arménienne. Et puis ça rate, ou ça réussit, question de perspective. Elle naît fille. Et a passé plus de temps que ses sœurs avec son père, qui est au chômage, vu ses prises de position de gauchiste. Kimia, petite fille, et je cite l'auteur, a la sensation inédite et grisante d'être l'enfant de son père avant d'être la fille de sa mère. Elle n'aura pas trop le temps de pousser plus avant cette intuition. Elle, ses sœurs et sa mère vont devoir fuir l'Iran. Sarah écrit, la mère, on nous a volé notre pays, les étendues noires des forêts, les rivières du Mazan d'Aran, les falaises immenses d'une beauté brute et inquiétante, les dômes turquoises, le soleil d'automne à Téhéran. Kimia, sa fille, découvrira que malgré ce qu'on croit, les grandes douleurs qui resserrent les liens, c'est ce qu'on nous raconte. Elle dit, ce n'est pas vrai de l'exil, la survie est une affaire personnelle. Et si en France, Kimia souffre de nos préjugés, dans quelle géographie trouve-t-elle du réconfort? Eh bien, je la cite sans flagornerie aucune. Étrangement, Bruxelles me rappelait l'Orient par sa simplicité et sa naïveté, par la nonchalance avec laquelle le temps s'écoulait. Désorientale est le remède à nos préjugés, à nous, sur l'Iran. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, quel beau choix de lecture. Vous pouvez nous rappeler les références du livre?
Alors, elle s'appelle Négar. Enfin, je sais pas si ça dit Négar, je suppose. Javadi. Le roman s'appelle Désorientale. Et c'est une collection qui est semi-poche. C'est-à-dire, c'est un peu cher, mais pas trop trop cher. C'est Juliana Lévy Piccolo. Piccolo comme la petite collection.
Ah, d'accord.
Ah,
oui.
D'accord.
Ouais, ok, ouais. On a bien compris, ouais. Merci. Bisous, merci. Juliette Arnaud. À 17h52 sur France Inter. C'est Pierre Palmade avec nous. Oh, ça va trop vite, ça
mais
va trop
ça,
vite.
C'est ça, le temps file.
C'est dingue, oui. Hein. Et profitons-en.
Mais attention,
vivons
là,
le moment intensément,
le
Pierre.
Sujet qui est tellement attendu.
Ben, évidemment. C'est le sujet que tout le monde attend. Notre urine est un engrais, paraît-il, exceptionnel.
Ah, oh, j'ai tout jeté, je suis belle.
Exactement. Alors, dès qu'on sort des toilettes, on gâche de l'eau potable, déjà, alors qu'on aurait pu récupérer de l'azote et du phosphore. Phosphore qui, paraît-il, est très rare sur Terre. L'urine est donc un engrais vert. Alors, évidemment, par exemple, pour les garçons, c'est facile d'entretenir les fougères.
Oui.
Pour les filles, il faut une solution.
Ah, non, il y a des pistes de boue.
Ah bah, justement, tiens.
J'aimerais pouvoir pisser debout. Pisser debout. J'aimerais pouvoir pisser debout.
C'est Guédré. Avec cette fameuse chanson. Alors, c'est un article qu'on a trouvé dans un nouveau magazine. C'est le deuxième numéro. Un magazine qui s'appelle Flush, Toilette, Culture et Société. Alors, c'est.
J'adore.
Non, mais c'est pas
Vincent
mal fait.
Vincent Dedienne en couverture.
Vincent Dedienne en couverture.
Belle photo.
Et c'est assez malin, c'est de voir l'actualité à travers la lunette des toilettes. Donc, on a trouvé le sujet assez passionnant. Mais alors, où je vous parle, Pierre Palmade, j'ai pas encore bien trouvé la manière de l'aborder.
Vous en pensez quoi?
J'ai envie de vous laisser comme un commentaire libre sur cette révélation, quand même.
Que l'urine peut nous servir.
Non, je vais vous aider, je vais nous aider parce que voilà. On a choisi ce sujet, on va l'assumer jusqu'au bout, Pierre. Par exemple, l'idée d'aller pisser sur des. Merci, je le savais. L'idée d'aller pisser sur des plants de vigne ou des fougères pour sauver la planète. Pourriez faire ça.
Non, je l'ai fait sur des amis dans des soirées arrosées. Mais
c'est marrant, Alex nous a fait une blague un peu similaire.
Oui, bah oui, oui.
Pour trouver un son, il proposait.
J'y connais deux, trois très très bons
vidéos, c'est ça.
Golden Shower.
Mais des fougères, oui. Mais dites-nous où c'est qu'on peut pisser utile.
Si, imaginons qu'on doive faire ça dans un, je ne sais pas comment, un jerrycan qu'on remplirait puis qu'on amènerait quelque part. Ça vous
vertigineux.
Ou vous trouveriez ça dégoûtant?
Ça fait moins mal qu'une prise de sang, déjà. Donner mon urine, moi, c'est plus facile que donner mon sang, quand même. Ou donner mon sperme. C'est très dur de donner son sperme dans un labo.
On est tous d'accord, c'est le plus facile, c'est quand même l'urine. Ça, c'est certain.
Au transport, les gars, pardon, hein, c'est plus facile de transporter une petite pipette de sperme.
C'est pas faux.
Ah non, mais ça te fait un jerrycan de pipi.
Je parle du don. Jusqu'à ce moment-là.
L'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture a mené une expérimentation sur une exploitation viticole près de Montpellier. Ah, c'était pas la Suisse, c'était Montpellier.
Pourquoi non, mais il y a un truc avec la Suisse.
Ah, voilà. Oui, on a exploité quelque chose. Une première cuvée inédite qui, de l'avis des propriétaires, donne pleinement satisfaction aux palais connaisseurs. C'est fou.
C'est une découverte révolutionnaire ou c'est anecdotique, c'est au fait?
Non, apparemment,
pour l'instant, c'est anecdotique.
Oui, c'est anecdotique, mais c'est vrai que quand on voit la quantité d'engrais verts qui se perd et que ça pourrait remplacer les engrais chimiques, on se dit qu'il y a un début de solution et que c'est amusant.
D'un point de vue marketing, c'est pas évident à vendre la cuvée.
C'est sûr. Puis vous qui êtes hypochondriaque, si vous prenez 2-3 médocs parce que vous avez peur de tomber malade, il n'y a plus de fougère le lendemain. Bah,
exactement. Je vais déboiser des forêts avec mon urine.
Pierre Palmade, je pense qu'on a bien changé le monde sur ce sujet avec vous.
On a intéressé les gens.
C'est vrai, effectivement. Et ça, sur l'urine, vous n'avez jamais posé de questions dans les médias.
J'ai très peu réagi en tout cas.
Sur le pipi en général,
j'étais sur la réserve jusqu'à présent.
On peut dire qu'il y a une interview exclusive de Pierre Palmade sur l'urine. Et ça n'est que sur France Inter. Alors,
il est derrière vous. C'est pas exclusif parce qu'il vient tous les vendredis nous chanter l'actualité. C'est Frédéric Fromet. De quoi allez-vous nous chanter cette semaine?
Bonsoir. Je vais vous chanter le hijab de course que Decathlon a renoncé à commercialiser. Et c'est vraiment dommage car, passé l'hystérie des opposants, je pense qu'on aurait bien ri. elle court avec son hijab de course. Pour semer un mollard qui la poursuit Angela Bar. Elle tombe, merci bien Décathlon. Quand la sportive s'aplatit dans sa tenue de chauve-souris. On pensait avoir touché le fond avec le déguisement de con. Jogger en t-shirt fluo et sa paire de pompes à 200 euros. Ses chaussettes de compression, son cuissard qui colle au bonbon, son brassard pour mettre son smartphone. Et voilà la femme faite aussi conne. Elle court avec son hijab de course. Et bientôt en chador, aérodynamique go sport. Elle sue dans sa prison de tissu. Pas de panique, Décathlon propose aussi des boissons. Le hijab est intéressant parce qu'il fait aussi coupe-vent. Un GPS peut être vendu avec, indiquant la direction de la Mecque. Mais d'abord, pourquoi le running? Il y a d'autres disciplines. Allah est grand, écoutons le prophète. Recommandez donc le basket. Mais elle court avec son hijab de course. Elle serait sublime si elle se mettait à l'escrime. Elle court avec son hijab de course. Au JO 2024, elle sera championne de course en sac. Elle court avec son hijab de course. Peut-être qu'elle file pour fuir un cato pédophile.
Merci. Merci Frédéric Fromet. Est-ce que vous jouez prochainement?
Oui, samedi soir à Autun, en Saône-et-Loire.
Ah, très bien. Merci Frédéric Fromet.
Merci.
Merci beaucoup Pierre Palmade d'avoir passé cette heure avec... Mais déjà, oui.
Vous êtes au théâtre?
Oui, c'est quand même à 20h30, bien sûr, au Théâtre Montparnasse, du mardi au samedi, avec une séance aussi le samedi supplémentaire à 17h30. C'est donc Le Lien de François Bégodeau, avec Pierre Palmade, Catherine Yégel et Marie-Christine Danède, dans une mise en scène de Panchika Vélez. Et puis, donc c'est jusqu'au 16 mars, à Paris, et puis en tournée dans toute la France de janvier à mars 2020. Merci beaucoup Pierre, c'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous.
Merci,
et merci à Mélanie Bauer, Juliette Arnaud, Christine Gonzalez, merci Alex Vizorek, et puis toute notre formidable équipe aussi qui prépare cette émission dans la joie et la bonne humeur, Nathalie Romero, Sarah Masson, Fabrice Rivaud, Ramzi Assadi, avec notre stagiaire Emma Ferré, et notre formidable stagiaire de troisième, Juliette Delaunay, cette semaine, qui devient une star des réseaux, bien sûr. Anne-Sophie Ladonne à la réalisation, avec Céline Hilla aussi cette semaine, merci à tous. À la technique aujourd'hui, Mathias Alléon et Tiffany Battistel. On laisse le mot de la fin à Pierre Palmade sur la maladie du comique.
Je suis malade, je suis un comique. Oui. J'ai la maladie du comique. Quand ça fait rire, j'essaie de le refaire le lendemain. Ou même, je demande à Catherine d'attendre un peu que les gens rient.